Bonjour à toutes et à tous, Didier Delattre sur IDFM pour un nouveau rendez-vous conte. Des histoires, des récits, des petits points de culture étonnants, ignorés, oubliés, des engagements, des questions, des écritures et des réécritures qui nous viennent parfois de la nuit des temps et des hommes et que je vous raconte en suivant l'ordre alphabétique. Avant de parler de la lettre d'aujourd'hui, voici les devinettes pour les belles têtes. À la fin de notre émission du 15 septembre, consacrée à la cause animale, je vous avais demandé l'origine du nom L214 que s'est choisie l'association désormais célèbre pour la diffusion de ces vidéos chocs tournées clandestinement dans les élevages et les abattoirs. Ouais, pourquoi ce nom énigmatique de L214 ? Réponse de Barbara Boyer, chargée des relations avec la presse à L214.
Bonjour et merci pour cette excellente question. L214 est une association de défense des animaux qui sont utilisés pour l'alimentation. On nous demande souvent pourquoi ce nom un peu mystérieux. Eh bien, en fait, il fait référence à l'article L214-1 du Code rural qui reconnaît pour la première fois en 1976 les animaux comme des êtres sensibles. Or, cet article de loi, eh bien, dans les faits, il n'est pas réellement pris en compte dans la façon dont les animaux sont considérés et traités. Symboliquement, on a donc choisi de prendre ce nom puisque notre objectif, c'est que la société reconnaisse les animaux comme des êtres sensibles. Pour y arriver, on actionne plusieurs leviers. Celui pour lequel on est les plus connus, ce sont les enquêtes filmées dans des élevages, dans des transports, les abattoirs ou encore sur des bateaux de pêche.
France Inter, le 7-9-30.
L214 publie une nouvelle séquence choc, des lapins destinés à la consommation, entassés, mutilés, agonisants, des femelles inséminées à marche forcée, des fœtus bazardés.
Ce sont des images difficiles, mais nécessaires pour connaître la façon dont sont traités les animaux. En effet, on tue rien qu'en France plus de 3 millions d'animaux par jour, juste pour l'alimentation. Et 80% de ces animaux proviennent d'élevages intensifs, dans lesquels les animaux sont enfermés sans aucun accès à l'extérieur. Et oui, on ne s'en doute pas forcément, mais ces conditions d'élevage concernent en fait la majorité des animaux. On parle là de poulets élevés par milliers dans des bâtiments à 22 par mètre carré et sélectionnés génétiquement pour atteindre 2,5 kg en seulement 35 jours. C'est 4 fois plus vite qu'en 1950. On parle aussi des cochons, par exemple, dont 95% sont élevés sur du béton au-dessus de leurs excréments, avec des truies reproductrices qu'on enferme dans des cages de contention, qui sont si petites qu'elles ne peuvent même pas se retourner pour s'occuper de leurs petits. Depuis plus de 10 ans, avec L214, on encourage les entreprises à mettre fin à ces pratiques d'élevage intensive. Et on agit pour que des politiques ambitieuses soient menées sur ces sujets. Grâce à notre travail et à celui d'autres associations, la proportion des poules élevées dans des cages en France a baissé de 80% en 2008 à 33% aujourd'hui. Des pratiques comme le broyage des poussins mâles dans l'industrie de l'œuf ou la castration à vif des porcelets seront bientôt interdites. On travaille aussi pour faciliter l'accès à une alimentation végétale afin que moins d'animaux soient tués et pour construire un rapport différent aux animaux, plus respectueux des individus sensibles qu'ils sont.
Mais comment en arrive-t-on à s'engager dans la lutte pour le respect et le bien-être des animaux ? Extrait d'une interview de Laurie, jeune militante de l'association Anonymous for the Voiceless, association dont j'ai déjà parlé dans cette même émission du 15 septembre. Laurie avait une bonne raison de s'engager pour la cause animale. Une raison, disons, familiale.
Alors moi, à la base, je viens du milieu agricole. Mes parents sont tous les deux éleveurs pour la production de foie gras et du cochon, donc particulièrement sanglant et violent. Malgré tout, mes parents avaient un peu le type d'élevage idyllique auquel on pense, le 2% de plein air qui nourrit tout le monde apparemment. Et le fait d'avoir vu la réalité des choses, d'avoir vu... ce qui se passait à la fin, indépendamment de la vie que pouvaient vivre ces animaux et les côtoyer de près, et en se rendant compte du coup que c'était des êtres sensibles comme toi, comme moi, et qui n'ont pas envie de mourir, ça m'a tout simplement fait me dire qu'il n'y avait rien qui justifiait de participer à cette violence-là, et que même, j'irais plus loin, il était de mon devoir en tant que personne qui est au courant de ce qui se passe, qui n'est pas biaisée par ce qu'on pourrait presque appeler de propagande par les lobbies et les syndicats agricoles, de prendre la parole pour ces individus qui ne peuvent pas se défendre par eux-mêmes.
Alors ça, c'est vraiment original, finalement, une fille d'éleveur qui devient abolitionniste. C'est vraiment un parcours original. Et comment ont réagi tes parents ?
C'est pas si original que ça, je pense. J'ai d'autres membres de ma famille que j'ai rencontrés après être devenue végane et abolitionniste de l'exploitation animale qui sont devenus véganes aussi de leur propre côté, qui ont eu ces démarches-là. Ça devient beaucoup plus difficile de se mentir à soi-même quand on a cette vision de la réalité. Et mes parents l'ont pris assez difficilement au début, puisqu'ils ont pris ça comme une crise d'adolescence, vu que j'étais assez jeune quand j'ai décidé de prendre ces positions-là. Mais aujourd'hui, ils savent mes positions et on ne revient plus dessus. Ils continuent à travailler là-dedans, parce que je pense que pour eux, c'est plus difficile de se questionner là-dessus, vu qu'ils ont toujours baigné là-dedans et que ça doit remettre beaucoup de choses en question pour eux. Ce qui est pour moi pas une excuse valable, mais je peux pas changer ça et c'est comme ça. Je pense qu'ils peuvent, mais ils ne veulent pas. En tout cas, aujourd'hui, je ne sais pas ce que je ferai dans 10 ans, mais si je pouvais décider, idéalement, j'aimerais continuer à porter la voix des animaux et à militer pour eux. Oui.
De quelle façon ?
Moi, j'aime particulièrement parler aux gens, donc en sensibilisation, pourquoi pas dans des conférences, dans le milieu des médias, ou en tout cas dans la rue, si c'est possible. En tout cas, je pense que la communication est la clé pour une compréhension mutuelle et avancer dans le bon sens. Et j'ai l'intime conviction que la plupart des gens seront prêts à changer si on leur dit correctement la réalité des choses, complètement.
Tu fais des études de com ?
De philosophie.
Des études de philosophie, d'accord. Mais oui, enfin, je pense qu'il y a un lien entre la philo et la cause animale. Enfin, les animaux ont-ils une âme ? C'est un thème de philo, ça ?
Oui, il faudrait déjà se demander est-ce que l'âme existe aussi. En tout cas, ce qui n'est pas de l'ordre de la philo, mais plus de la science dure, de la biologie et de la physique, c'est que les animaux, tout comme les humains, ont la capacité de souffrir. De nombreuses déclarations universitaires, comme la déclaration de Cambridge, appuient le fait que les animaux ont la capacité de raisonner, qu'ils ne veulent pas mourir, qu'ils sont capables de souffrir. Et comme dirait Bentham, un philosophe qui a théoriser l'utilitarisme et le fait de causer le moins de souffrance possible et d'optimiser le bonheur commun. La question à se poser, c'est pas tant s'ils sont capables de réfléchir, mais est-ce qu'ils sont capables de souffrir ? Alors, ils sont capables des deux et on n'a pas besoin de les faire souffrir.
Réponse également à notre double devinette pour les belles têtes de notre émission de la semaine dernière, consacrée principalement à la lettre B, B comme Barbe Bleue. Quel réalisateur français génial et avant-gardiste a réalisé en 1901 un film muet, bien entendu, intitulé tout simplement Barbe Bleue ? On entend en ce moment la bande-son. Il s'agit bien évidemment de Georges Méliès. Alors, je laisse mon assistante vocale personnelle, Calliope, vous présenter le film. Calliope, dont le nom signifie en grec « à la belle voix », fille de Zeus et de Mnémosyne, la déesse de la mémoire, muse de la poésie dans l'Iliade et l'Odyssée, et quelquefois muse de l'éloquence, c'est-à-dire de la manière de bien parler. À toi, Calliope.
Barbe Bleue cherche une huitième femme. Il présente à des jeunes filles toute sa richesse. Un tas d'or puis un coffret rempli de bijoux et de pierres précieuses. Un vieux Grigou de père, attiré par tant de fortune, marie sa fille de force. Bel exemple de patriarcat criminel, car personne n'ignore la dangerosité du personnage. Mais qui dit Méliès dit avant tout effet spéciaux. Ici, La clé de la pièce interdite où sont conservés les cadavres des épouses assassinées, la clé est un accessoire surdimensionné. Une quarantaine de centimètres. D'abord dans la main de Barbe Bleue, puis dans celle de sa jeune et dernière femme. Et lorsque celle-ci, désobéissant bien entendu aux ordres de son époux, entre dans la pièce maudite, elle laisse évidemment tomber la clé dans le sang des victimes. Méliès fait alors grandir la clé par une succession d'arrêts de caméra et autant de substitutions de clés en bois de plus en plus grandes. L'objet devient aussi haut que le personnage.
Selon le psychanalyste Bruno Bettelheim, auteur du célèbre ouvrage « Psychanalyse des contes de fées », le sang sur la clé symbolise le fait que la jeune femme de Barbe Bleue aurait eu des relations sexuelles lors de l'absence de son dangereux mari. Voir dans la pièce interdite le cadavre des précédentes épouses serait alors, selon Bettelheim, un pur fantasme, un fantasme créé par son sentiment de culpabilité. Rendez-vous compte. Quoi qu'il en soit, vous remarquez, l'héroïne est fortement tentée de faire ce qui lui est interdit. Le thème de la curiosité de la femme et de sa désobéissance, avec toutes ses conséquences funestes, ça vous rappelle pas un autre mythe ? Eh oui, bien sûr, le péché originel, entre guillemets, dans la Bible, dans la Genèse. Ève a cédé à la tentation de la curiosité, de la transgression. Et Adam, vous l'avez remarqué, se laisse vraiment facilement entraîner dans l'aventure. Une fois qu'ils ont goûté aux fruits défendus, rappelez-vous, leur transgression est découverte par Dieu, car ils tentent de cacher leur nudité. C'est pourquoi le péché originel, encore une fois entre guillemets, est souvent associé à la sexualité, un peu honteuse, qu'il faut cacher. Tout comme l'adultère peut être commis par la jeune épouse de Barbe Bleue durant l'absence tentatrice de ce dernier. Si la jeune femme du conte avait, pour une fois, un prénom, finalement, ce serait peut-être Ève, rendez-vous compte. Mais nous avons vu dans l'émission précédente qu'au fil du temps et des réécritures et des transpositions, eh bien, Barbe Bleue ne faisait plus peur à personne, même aux enfants. Il est devenu souvent un personnage dérisoire, pathétique, victime des femmes qui n'obéissent plus à leur mari, rendez-vous compte. Mais tout le contraire avec ce Barbe Bleue de Gambet, dont je vous demandais également la véritable identité. C'était la deuxième partie de la devinette pour les belles têtes. Le Barbe Bleue de Gambet, petit bonhomme chauve, barbe noire, figurez-vous, l'un des premiers tueurs en série français. Né en 1869 à Paris, mort le 25 février 1922 à Versailles, mort guillotiné. Son nom, ah, vous l'avez reconnu, Landru, Henri Désiré Landru, le Barbe Bleue de Gambet.
Aujourd'hui, Henri Désiré Landru, le Barbe Bleue de Gambet.
À 20 ans, il épouse sa cousine avec qui il aura 4 enfants. Il change souvent d'emploi, mais il ne parvient pas à subvenir aux besoins de sa famille. Il commence alors sa carrière d'escroc. Il est condamné plusieurs fois à des peines de prison et à des amendes. En 1914, multirécidiviste, il risque la déportation à vie au bagne de Guyane dont les conditions de détention sont redoutées de tous. Il prend alors la fuite et est contraint de vivre dans la clandestinité. Première guerre mondiale, il se met à lire les annonces matrimoniales dans la presse. Il fait la connaissance de plusieurs femmes. Il les fait venir dans les maisons qu'il a louées sous différents noms, dans les Yvelines, à Vernouillet et à Gambet. Elles n'en ressortiront jamais. 8 femmes veuves ou délaissées dont il fait disparaître les cadavres, brûlés dans sa chaudière. Landru s'empare ensuite de leurs biens et les revend pour se faire de l'argent. Comment va-t-il être démasqué ?
Fin 1918, la guerre vient de se terminer en France. Le maire de Gambet, une petite ville de Seine-et-Oise, devenue en 1968 le département des Yvelines, reçut un étonnant courrier. Il émane de Madame Pelat, lui demanda des nouvelles d'une Madame Anne Colomb, qui, fiancée à un Monsieur Dupont, s'était établie avec lui à Gambais. Le maire est surpris, car il ne connaît pas de Monsieur Dupont installé à Gambais. Quelque temps plus tard, il reçoit une lettre d'une certaine Mademoiselle Lacoste, qui lui demande des nouvelles de sa sœur, Célestine Buisson, laquelle se serait également installée à Gambais avec un monsieur Frémillet. Il n'y a pas plus de monsieur Frémillet que de monsieur Dupont à Gambais, mais frappé par la similitude de ces demandes, le maire met en contact les deux familles, qui se rendent compte que monsieur Dupont et monsieur Frémillet semblent être la même personne, et s'unissent pour porter plainte contre X auprès du parquet de la Seine.
Enquête, arrestation de Landru en 1919 à Paris, procès compliqué, évidemment, absence des corps, manque de coopération de Landru, qui répond souvent au juge avec une ironie qui fait rire le public. Mais une scène va profondément marquer les jurés et influencer leur décision finale.
Son avocat, maître Moreau Giafferi, le défend avec talent. Une scène mémorable eut lieu pendant sa plaidoirie, où il affirme que des victimes avaient été retrouvées et allaient venir se présenter devant la cour d'assises. Le public et les jurés tournèrent la tête vers la porte, que le ténor du barreau avait alors désignée. Et après avoir laissé planer le suspense, il souligna le fait que tous ceux qui avaient tourné la tête vers la sortie avaient ainsi démontré leur manque de conviction concernant la réalité des assassinats imputés à son client, mettant en évidence l'absence de preuves formelles contre Landru, faute de cadavres retrouvés. Mais l'avocat général rétorqua du tac au tac que Landru, lui, n'avait pas tourné la tête vers la porte.
Eh ouais, Landru est le seul à ne pas avoir tourné la tête vers l'entrée. Lui sait bien que ses victimes sont mortes, elles ne peuvent donc pas venir témoigner contre lui. Il sait bien qu'il est coupable. Alors, le président le fait d'ailleurs remarquer au juré. Landru s'est fait piéger par son propre avocat, rendez-vous compte. Reconnu coupable de 11 meurtres et disparitions de cadavres, il est guillotiné le 25 février 1922 à la prison Saint-Pierre de Versailles à 6h05 du matin. À la dernière minute, il refuse de s'avouer coupable et déclare à son avocat qu'il, entre guillemets, garde son petit secret.
La famille Landru dut changer de nom pour mener une vie tranquille. Maurice Landru, victime d'un maître chanteur, dut en changer 3 fois.
Landru, le barbe bleue de Gambais, avait pour habitude de rencontrer ses victimes par petites annonces. Le Tinder de l'époque, quoi. Et pour cela, il utilisait de nombreux faux noms. Le plus ironique, Tartempion. Ouais, Monsieur Tartempion. Tartempion, c'est ainsi qu'on nommait généralement une personne dont on ne connaissait pas le nom. Synonyme genre machin, truc. Ou alors une personne pour laquelle on a peu d'estime. Vraiment peu d'estime. Comme le chanteur 1936, Charles Trenet, dans sa chanson intitulée « La situation de Tartempion ».
Dans le quartier, Madame Angèle, on dit que votre demoiselle a des amis très influents dans le gouvernement. Alors vous serez bien gentille de glisser en douce à l'occasion un petit mot à votre fille pour le fils d'Artempion. Il faut trouver à Tartempion qui est un gentil garçon, une belle situation. Une sinécure ou un emploi, n'importe où, dans n'importe quoi, à condition que ce ne soit pas le premier choix. Dame, il ne sait pas très bien lire, il ne sait pas non plus écrire. C'est le tourment de ses parents qui s'en font bien du mauvais sang. Il faut trouver à Tartempion qui est un gentil garçon, une belle situation.
Mais est-ce que vous savez d'où vient ce nom, Tartempion ? Au départ, il s'agit d'un personnage imaginaire, un peu ridicule, qui apparaissait régulièrement dans les articles du Charivari, un journal satirique du XIXe siècle. Tartempion devint même très à la mode à la fin du siècle, tellement célèbre qu'il fut même utilisé par l'un des plus grands criminels du XXe siècle, comme faux nom, Henri Désiré Landru, le barbe bleue de Gambais, alias Tartempion. Alias aussi Monsieur Verdoux, en 1947, dans le film de Charlie Chaplin où il adapte la vie d'Henri Désiré Landru au cinéma.
Chaplin utilisa cette histoire pour établir une comparaison satirique entre assassinat privé et assassinat public. Verdoux déclare « Quant à l'assassinat collectif, le monde ne l'encourage-t-il pas ? Ne construit-il pas des armes de destruction dans le seul but d'assassiner en masse ? Un meurtre fait un bandit, des millions, un héros. »
Dans ce film, l'antimilitarisme de Chaplin, en pleine guerre froide, déchaîne l'hostilité des milieux conservateurs.
Par la suite, les fanatiques de droite, responsables de ce harcèlement, organisèrent des manifestations pour boycotter les cinémas présentant le film et forcèrent les artistes associés à le retirer provisoirement de la circulation. Ce fut le début de la dernière et plus malheureuse période de la vie de Chaplin aux États-Unis, qu'il quittera définitivement en 1952.
Landru, le barbe bleue de Gambet, porte-parole du pacifisme via Monsieur Verdoux, lui-même porte-parole de Charlie Chaplin, je vous le disais, les réécritures et transpositions de Barbe Bleue ne font plus peur ou bien sont totalement détournées au profit de juste cause. Rendez-vous compte. Mais avant d'évoquer un autre personnage, mythique, à la barbe bien connue, nous allons écouter Zara. Zara, 17 ans, lycéenne et qui a accepté de participer aujourd'hui à notre rendez-vous compte alphabétique, avec une chronique musicale, à partir de la lettre A, même si nous sommes en pleine lettre B. À toi Zara.
C'est à l'occasion du premier épisode de cette édition 2022-2023 sur la lettre A que j'ai eu l'idée de mettre à l'honneur deux talentueux artistes qui ont marqué et continuent d'influencer notre génération. Vous connaissez probablement ce son. Ou encore celui-là. Ferme la porte à la pouki dans le side. Mais savez-vous vraiment qui sont les interprètes de ces chansons? Je vous laisse y réfléchir. Vous l'aurez trouvé ou pas, il s'agit d'Alicia Keys et d'Aya Nakamura. Bien qu'elles soient toutes les deux très connues et médiatisées, beaucoup ne peuvent s'imaginer à quel point ces deux femmes ont eu un parcours de vie très similaire. Moi-même, ayant été très surprise de leurs nombreuses ressemblances, j'ai décidé de vous en faire part. En effet, elles sont bien plus que des chanteuses, ce sont des symboles de détermination. Tout d'abord, elles ont toutes les deux vécu dans des milieux défavorisés et baigné dans la musique que leur offrait leur famille. En effet, Alicia Keys a passé son enfance dans le quartier de Harlem à New York. Elle a été élevée par sa mère qui lui a inculqué l'importance de la musique en l'inscrivant à des cours de piano, de chant et de clarinette. Quant à Aya Nakamura, née d'une famille d'ouvriers, elle a grandi à Aulnay-sous-Bois en Seine-Saint-Denis. Sa mère était une artiste qui pratiquait l'art du griot. Aya Nakamura et Alicia Keys ont toutes deux connu de très grands succès musicaux et remporté de nombreux prix très jeunes, à peine à leur maturité. Alicia Keys connaîtra un énorme succès avec la sortie de son premier album, qui se vendra à plus de 12 millions d'exemplaires, lui permettant de remporter 5 Grammy Awards et faisant d'elle l'artiste qu'elle est aujourd'hui. Concernant Aya Nakamura, sa créativité et son travail lui permettra de devenir l'artiste francophone la plus écoutée des 3 dernières années et d'accumuler des milliards d'écoutes sur les plateformes de musique. Et vous savez quoi ? Pour couronner le tout, les deux chanteuses se sont retrouvées le 7 juillet sur scène à l'Accor Hotel Arena de Paris-Bercy pour interpréter la fameuse chanson « Dja Dja » d'Aya Nakamura. Cette rencontre étonnante faisait plaisir à voir car elle mettait en lumière deux femmes qui, pourtant parties de loin, ont par leur travail acharné et leur détermination réussi à réaliser leurs rêves. C'est à vous que je m'adresse maintenant, mes chers auditeurs. Utilisons cette histoire pour nous inspirer, nous motiver à atteindre chaque objectif que l'on souhaite accomplir et nous rappeler que tout est possible à qui rêve osent et n'abandonnent jamais. Merci à tous pour votre écoute.
Un grand merci, Zara. À bientôt, j'espère, pour une autre chronique. En attendant, je te souhaite encore d'excellents résultats dans tes études, comme tu en as déjà apporté la preuve. Vous êtes toujours bien sur IDFM, à l'écoute de ce rendez-vous conte consacré à la lettre B, B comme Barbe Bleue, le Barbe Bleue du conte de Perrault, ou bien le réel et véritable Barbe Bleue, lui, le criminel de Gambet, alias Tartempion, alias Landru, mais aussi alias Monsieur Verdoux de Chaplin. Landru, petit bonhomme chauve, barbe noire, tiens, barbe noire, ouais, et si on parlait un peu de barbe noire? Le pirate.
Barbe Noire, la terreur des mers. Le règne de Barbe Noire a duré deux longues années. Avec son équipage, il a terrorisé les marins traversant l'océan Atlantique et la mer des Caraïbes de 1716 à 1718. Barbe Noire est britannique. Son véritable nom serait Edward Tisch. Jeune marin, il a servi sur des navires corsaires anglais en Jamaïque. Les navires corsaires étaient des bateaux privés et lourdement armés mandatés par les gouvernements en temps de guerre pour attaquer les navires ennemis. La reine Anne de Grande-Bretagne a ainsi autorisé Edward Tisch à couler des navires français et espagnols pendant la guerre de succession d'Espagne pour se saisir de leurs riches cargaisons. À la fin de la guerre, Edward, devenu voleur expérimenté, rejoint un groupe de pirates caribéens. Il devient le capitaine de son propre navire qu'il vient de voler. Il y ajoute des canons et forme un équipage de 250 pirates.
À mesure que sa réputation grandit dans les eaux caribéennes, sa barbe et ses cheveux s'épaississent. Il se fait maintenant appeler Barbe Noire. Il tresse sa barbe et la noue avec des rubans noirs. Il rembourre même son chapeau avec un cordage fumant pour se donner un air plus féroce et plus menaçant. Il terrifie quiconque ose croiser son regard. Au cours d'un affrontement homérique contre la marine britannique, l'équipage de Barbe Noire hisse une chaloupe, apparemment vide, à bord de son navire pirate. Les hommes de la Royal Navy, qui étaient cachés, sautent alors sur le pont du bateau, dégainent épées et pistolets. Les pirates se retournent, pris de court, la bataille s'engage. Affrontement homérique, je vous le disais. Eh bien, homérique, c'est le terme qui convient. En effet, comme lors de l'épisode du fameux cheval de Troie raconté par Homère, les guerriers grecs, cachés à l'intérieur du cheval, en sortent par surprise et prennent la ville assiégée depuis 10 ans. Là, ce sont les marins de la Royal Navy qui jouent le rôle des Grecs dans l'Odyssée. Fin de parcours pour Barbe Noire. En guise d'avertissement aux autres pirates, sa tête tranchée est suspendue à la proue du bateau du commandant anglais. Celui-ci se met en quête du trésor du terrible pirate. En vain, en mourant, Barbe Noire a emporté le secret de son trésor. Eût-il jamais existé ? Rendez-vous compte.
Ah, de nombreuses légendes courent au sujet de Barbe Noire. On dit que dans son dernier combat, il reçut 25 blessures, dont 5 par balle avant de s'écrouler. On dit que son corps sans tête, lorsqu'il fut jeté à l'eau, fit à la nage 2 fois le tour du bateau. On dit aussi que ses trésors n'ont jamais été retrouvés.
B comme Barbe Bleue, celui des contes de Perrault, ou du film de Georges Méliès en 1901, ou encore le malheureusement bien réel Barbe Bleue de Gambet. B aussi comme Barbe Noire le pirate. Voyez, on en a fait du chemin encore aujourd'hui. Avant de terminer ce rendez-vous compte, devinette pour les belles têtes. Est-ce que vous connaissez le nom et l'histoire du drapeau des pirates? Réponse par mail à rdbcidfm@gmail.com. Rendez-vous compte, une émission conçue, réalisée et présentée par Didier Delattre sur IDFM 98 à la semaine prochaine, même heure sur IDFM pour la réponse à la devinette et de nouvelles découvertes, émotions et surprises dans l'ordre alphabétique.
IDFM 98 FM.